Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la Birmanie, rebaptisée le Myanmar, un pays de 678 000 km², soit l'équivalent de la France, 55 millions d'habitants, un pays à l'accès limité pour les étrangers. Ancienne colonie britannique, la Birmanie a pour voisins le Bangladesh et l'Inde côté ouest, la Chine au nord et à l'est, le Laos et la Thaïlande. À l'est, elle borde le golfe du Bengale. Le pays, dirigé par une junte militaire, connaîtra dimanche 7 novembre une journée électorale, 20 ans très exactement après la dernière élection de 1990 qui avait vu la victoire jamais reconnue de la Ligue nationale pour la démocratie, dont la secrétaire générale est une figure emblématique, Madame Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, opposante historique qui a passé la plupart de ces dernières années en résidence surveillée et dont on annonce la libération très vite après la consultation électorale de dimanche. Le but de ce scrutin est l'élection du futur Parlement bicaméral qui comprendra 664 représentants, dont un quart de militaires nommés. Quel regard porter sur cette élection à laquelle ne participe pas le parti de Madame Suu Kyi? Quelle lecture faire de la stratégie de la dictature birmane? Qu'est-ce que l'élection va changer? Pour répondre à ces questions, nos invités par téléphone depuis la Thaïlande voisine de la Birmanie, Sophie Boisseau-Durocher, spécialiste de l'Asie, chercheur à Asia Centre. Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Maxime Boutry, ethnologue, chercheur associé à l'IRASEC, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Bonjour Maxime Boutry.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Isabelle Dubuis, coordinatrice de l'association Info Birmanie. Bonjour Isabelle Dubuis.
Bonjour.
Ces élections, les premières depuis 1990, ont un goût amer. Le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi n'y participe pas. Il est pourtant une figure emblématique en Birmanie. Quel regard portez-vous les uns et les autres sur ce scrutin? On commence par vous, Sophie Boisseau-Durocher.
Écoutez, je crois que c'est un scrutin qui est un scrutin très symbolique, effectivement, 20 ans après celui de mai 90. C'est un scrutin qui, néanmoins, est beaucoup plus verrouillé que celui de mai 90, parce que la junte ne veut pas répéter les mêmes erreurs que celles qu'elle avait commises à ce moment-là, c'est-à-dire en laissant aux partis d'opposition la possibilité de remporter le scrutin. Donc, on est dans une configuration qui est différente. Il y a effectivement un scrutin électoral, mais je dirais un scrutin qui est complètement verrouillé d'avance par des règles qui ont été mises en place ces derniers mois par la junte.
D'où ce refus, Isabelle Dubuis, de Madame Aung San Suu Kyi de participer à l'élection.
Oui, un ensemble de critères a conduit le parti d'opposition, donc la Ligue nationale pour la démocratie, ainsi que d'autres partis qui étaient aussi dans la mouvance démocrate aux élections de 1990, à refuser ces élections sous couvert donc d'une mascarade électorale, des lois électorales extrêmement restrictives. La plupart des leaders qui sont toujours incarcérés, qui n'ont pas la possibilité ni de se présenter aux élections, ni même de participer à la vie politique de leur parti. Donc toutes ces multiples restrictions ont conduit effectivement ces partis à dénoncer les élections et à refuser d'apporter leur caution à ce scrutin.
Est-ce que c'est un bon choix, Maxime Boutry, de la part de l'opposition, de ne pas participer au scrutin de dimanche?
Alors, bon choix, non, je dirais le contraire, puisque ne pas participer aux élections, c'est de toute façon se refuser les moyens d'un changement, même si infime qu'il soit. Cependant, ce refus de participer est partagé par une grande partie de la population, en tout cas de Yangon, même si certains, en fait, gardent quand même un petit espoir dans le fait d'aller voter et de pouvoir exprimer une opinion. Cependant, le processus électoral est quelque chose qui n'est pas du tout acquis pour la population birmane, vu qu'ils n'ont pas eu d'élection depuis 1990.
Isabelle Dubuis.
Moi, je pense au contraire que la Ligue nationale pour la démocratie, d'une part, était face à un non-choix, puisque, comme on l'a dit déjà ces dernières minutes, c'est un scrutin qui s'annonce extrêmement verrouillé. Et finalement, l'opposition n'avait pas énormément de marge de manœuvre. Donc c'est plus la junte qui a forcé la Ligue nationale pour la démocratie à ne pas se présenter aux élections, plutôt qu'un véritable choix politique de la part de ce parti. Je pense que là où la Ligue nationale pour la démocratie a fait un bon choix, c'est que son refus de participer, on a la plupart des diplomaties asiatiques, mais aussi occidentales, souhaite croire en ce scrutin comme une opportunité. Le fait que la LND le dénonce a forcé l'ensemble de la communauté internationale à admettre que ce scrutin est une vaste supercherie.
Sophie Bosso-Durocher.
Oui, là, il y a deux points sur lesquels je crois qu'il est quand même important de réagir. Le premier, c'est que je pense que la LND avait la possibilité de prendre la junte à son propre piège. Hein, je crois que c'est quand même une possibilité qui a été d'ailleurs envisagée, puisqu'il y a eu un débat au sein de la LND, et certains des représentants de la LND ont d'ailleurs décidé d'aller au-delà des recommandations de dirigeants et de créer leur propre parti dissident pour se présenter à ce scrutin.
Prendre la junte à son propre piège, qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Eh bien, si vous voulez, il est évident que ce scrutin représente déjà dans la mentalité des dirigeants actuels en Birmanie un grand compromis, un compromis majeur. Ils y ont été amenés pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. D'une part parce que l'armée elle-même commence à bouger et on se souvient que c'était une faction de l'armée qui avait demandé le départ de Ne Win en 1988 et donc le général Tan Shwe aujourd'hui ne voudrait pas que telle mésaventure lui arrive. Il s'agit donc de rassurer l'armée. Il y a également un mécontentement qui est palpable en Birmanie depuis la révolution Safran de 2007 et donc si vous voulez, dans ce contexte-là, la junte a le sentiment d'avoir accepté une concession majeure en organisant ce scrutin. Une des possibilités qui a été donc discutée au sein de la LND aurait été de dire « Ok, on y va, on joue le jeu et on réclame véritablement des changements ». Alors, là où effectivement les jeux étaient pipés d'avance, c'est que très rapidement, alors que ce scrutin avait été annoncé de longue date, hein, ce scrutin en fait a été annoncé dès 2003, hein, dès qu'une feuille de route vers la démocratie a été rédigée, puis dans la constitution de février 2008, puisqu'il était déjà annoncé ce scrutin comme une étape vers une transition politique graduelle. Donc on est dans un processus qui n'est pas un processus impulsif de la part de la junte, c'est vraiment une décision qui a été prise il y a longtemps, tout simplement parce que il vaut mieux accepter ce compromis-là que de perdre le pouvoir. Alors, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que ceux, entre guillemets, qui vont être demain les dirigeants, quand je dis demain, c'est à un horizon moyen terme, hein, de 20 à 25 ans, seront ceux aussi qui auront progressivement grignoté une part de l'espace politique que, aujourd'hui, la junte veut bien leur laisser. Il est évident que la junte ne va pas recommencer les mêmes erreurs qu'en 90, c'est-à-dire qu'elle ne va pas laisser un espace d'expression politique libre s'organiser en Birmanie. Donc, la question de fond, c'est est-ce qu'il faut maintenir un comportement binaire en acceptant ou pas, ou en refusant cette opportunité-là, ou est-ce qu'il faut essayer, en contournant certaines règles, de grignoter progressivement de l'espace et de prendre effectivement la junte à son propre piège.
Donc l'objectif et l'objet de cette élection, si je vous ai bien comprise, Sophie Boisseau-Durocher, c'est effectivement grignoter et faire avancer un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude, Maxime Boutry l'a évoqué rapidement tout à l'heure, l'attitude de la population, on doit s'attendre à une abstention assez massive. Quel est l'état d'esprit des Birmans aujourd'hui par rapport au système politique qui a cours en Birmanie ?
L'état d'esprit, on doit le distinguer en fonction des cas. On peut pas mélanger l'état d'esprit des Birmans de Yangon à l'état d'esprit qui doit régner dans certaines régions des États à majorité ethnique.
Yangon, qui, juste pour mémoire, pour les auditeurs, se situe tout au sud de la Birmanie.
Pas tout à fait tout au sud, qui est à côté du delta de l'Irrawaddy, en fait, pour être plus précis. Donc Yangon, l'ancienne capitale, qui est quand même très active, où là il y a beaucoup d'étudiants, de même qu'à Mandalay, il y a effectivement un profond mécontentement par rapport au gouvernement et on va dire un début de conscience politique, d'où une grande majorité de cette population qui considère effectivement que les élections ne sont pas équitables et ne vont pas amener de changement, voire un total désintéressement. Après, il faut voir une autre chose, c'est que dans la Birmanie rurale du centre du pays, donc à majorité birmane, là on a une population qui est très loin des enjeux politiques et des connexions entre ces enjeux politiques et la situation économique qu'ils vivent actuellement. Pour résumer, on a quand même des systèmes propres à l'Asie du Sud-Est, tels que les systèmes patron-client qui dominent dans les régions rurales, où le pouvoir est donné à l'homme fort, c'est-à-dire aux businessmen, aux patrons, etc. Or, il est évident que ces hommes forts sont plus ou moins proches de l'armée et du pouvoir actuel. Et donc, dans ces régions, les résultats du scrutin, si la population va voter, est tout à fait prévisible. Maintenant, dans les régions dominantes ethniques autres que birmanes, c'est-à-dire Shan, Karen, Kachin, etc., on sait que la commission électorale a enlevé le droit de vote à pas mal de villages dans ces régions, et que les populations risquent de voter pour les partis ethniquement marqués.
Isabelle Dubuis.
Oui, effectivement, on a vu ces dernières semaines que la commission électorale a décidé d'interdire le droit de vote à quand même une population estimée à 1,5 million d'électeurs, tous situés dans des zones ethniques sensibles, sous motif que dans ces régions, le pouvoir central ne serait pas en mesure d'organiser des élections libres et équitables. C'est un aveu patent de la junte que dans ces régions où des partis ethniques puissants ont décidé, eux, de jouer le jeu justement de ces élections et de se présenter, la junte a compris qu'elle n'avait pas la possibilité d'imposer ses candidats et ses élections. Donc la solution toute simple qu'elle a trouvée, c'est d'annuler le scrutin dans ces circonscriptions. Ce qui montre que finalement, dès qu'un candidat, un parti, une mouvance représente un quelconque danger pour la junte, il est directement éradiqué du paysage politique. C'est en cela que je pense que, même si on espère tous évidemment que ces élections permettent un changement politique graduel et que ces candidats de l'opposition puissent petit à petit grignoter de l'espace politique, je pense quand même que c'est un grand fantasme que nous avons tous, pour différentes raisons. Déjà, les candidats qui pourraient gagner en autonomie après les élections et s'émanciper un petit peu du pouvoir politique, il faut savoir que la commission électorale a la possibilité de les répudier a posteriori. C'est-à-dire, même une fois élus, on peut décider du jour au lendemain que finalement, ils ne le seront pas ou ils ne pourront pas siéger. Certaines dispositions de la Constitution prévoient notamment une nomination de 25% des postes donc dans les deux chambres parlementaires, donc qui soient octroyés directement aux militaires. Et une autre disposition prévoit également que 75% soit la majorité de blocage pour toute réforme, ce qui montre qu'aucune réforme ne pourra passer sans les militaires. Chaque candidat devra également faire allégeance à la Constitution et au pouvoir en place. Et enfin, je pense qu'on se focalise beaucoup sur ce Parlement. Aujourd'hui, on n'a aucune assurance que le Parlement jouera un rôle politique important dans le pays. Certes, dans les démocraties que l'on connaît, le Parlement est une force politique, une institution majeure. Aujourd'hui, on n'a pas du tout l'assurance que ces parlements nationaux et régionaux joueront un rôle important. Pour la simple et bonne raison que la Constitution, donc la nouvelle Constitution qui va entrer en vigueur au lendemain du scrutin, prévoit l'émergence d'une espèce de conseil de défense qui est donc une institution, c'est là où on reprend vraiment la junte dans son esprit collectif, avec quelques généraux qui seront au-dessus du gouvernement, au-dessus de toutes ces institutions et qui seront les véritables maîtres du jeu. Donc est-ce qu'on est face à un Parlement qui, comme dans les années 90, cette Convention nationale travaillait sur le texte constitutionnel? On avait plein de représentants de l'opposition à ce moment-là. Seulement, ils n'avaient pas possibilité de proposer des amendements ni d'induire un quelconque changement. Si c'est seulement pour signer et paraffer des documents sans avoir la possibilité de les amender, c'est une institution fantoche et complètement symbolique.
Sophie Boisseau-Durocher, je me tourne vers vous. Vous disiez tout à l'heure que l'armée avait commencé à bouger, d'où le scrutin de ce 7 novembre. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ?
Non, je n'établissais pas de lien direct entre le fait qu'il pouvait y avoir un certain mécontentement au sein de l'armée et le fait que ce scrutin ait été organisé. Mais c'est certainement un des facteurs qui a contraint la junte au pouvoir à prendre en compte le mécontentement qui aujourd'hui s'observe au sein de l'armée. Vous savez, l'armée birmane est une armée très importante, hein, près de 400 000 hommes, qui est donc disséminée partout dans le pays, qui n'est pas seulement évidemment dévouée à la défense, mais également au développement du pays, donc qui est très impliquée dans différentes affaires, dans différents business, et dans la gestion des ressources, et notamment donc des fameuses ressources d'hydrocarbures, gaz et pétrole, qui enrichit certains de ses représentants. Je crois que le problème de fond, c'est que effectivement aujourd'hui, certains représentants de l'armée estiment qu'ils ne sont pas suffisamment bien reconnus ou dans leur tâche, et parfois elle est fort difficile quand il s'agit de rétablir ou d'essayer de contrer la guérilla ethnique, ou qu'elle n'a pas suffisamment de bénéfices des activités lucratives auxquelles certains de ses représentants s'adonnent. Donc, si vous voulez, il y a un mécontentement, et aujourd'hui, il est évident que la junte doit le prendre en compte parce que c'est l'armée qui fait le jeu politique en Birmanie depuis plus de 20 ans. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que le fantasme démocratique, il existe partout. Je crois qu'il n'existe plus beaucoup en Birmanie. Hein. Je crois qu'il y a une certaine désillusion que nous avons largement contribué à alimenter parce que, à force de vouloir, si vous voulez, la grande révolution, les Birmans n'attendent plus rien des jeux politiques. Donc je crois qu'on ne doit pas espérer, malheureusement, mais de grands changements ou de changements brutaux en Birmanie du jour au lendemain. Et au demeurant, si même ces changements avaient lieu, la question de fond n'a pas encore été traitée et n'a jamais été traitée dans l'histoire récente de la Birmanie, c'est-à-dire depuis l'indépendance en 1948, qui est celle de la constitution d'un État birman basé à la fois sur une ethnie majoritaire, mais sur une multitude d'ethnies minoritaires, 35% environ de la population, hein, environ 100 ethnies, qui revendiquent ou une indépendance totale ou une plus grande participation au jeu politique. Alors, la vraie question, elle est là, c'est quel équilibre politique est viable pour la Birmanie aujourd'hui ? Voilà, je crois que c'est une question qui est sensible. Une autre question qui est évidemment importante, c'est que dans un climat interne qui n'est absolument pas apaisé, quel est le rôle de l'armée et quelles fonctions lui attribuer ? On voit bien dans d'autres pays de la région, et je pense particulièrement à l'Indonésie, qui présente, en dépit de spécificités particulières, qui présente un panorama entre une population majoritaire et puis une multitude d'ethnies, un profil un peu similaire, si vous voulez, où l'armée est toujours très impliquée pour entretenir une paix nationale. Et donc, c'est vraiment la question importante, c'est-à-dire que je comprends bien qu'on puisse attaquer et rendre dérisoire le scrutin de dimanche, mais simplement, dans ces cas-là, quelles solutions préconiserait-on pour aboutir à une configuration politique qui soit satisfaisante pour l'ensemble des acteurs ?
Est-ce qu'il faut retenir de ce que vous venez de dire, Sophie Boisseau-Durocher, que finalement le pouvoir birman se trouve face à une véritable impasse ?
Non, moi je ne crois pas qu'il se trouve face à une impasse. Je crois que c'est un pouvoir qui est tout à fait réaliste, qui est en place depuis plus de 20 ans maintenant, qui n'a aucune envie de laisser l'espace politique et surtout l'accès privilégié dont il dispose aux ressources à d'autres acteurs et donc qui bloque tous les jeux politiques. La thèse réaliste l'emporte. Ce sont des personnes qui sont très cyniques, qui n'ont aucun souci du bien d'autrui et qui se cherchent simplement à préserver de façon optimale leur niche. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la préservation de leur accès privilégié aux ressources passe, estime-t-il, par un scrutin électoral. Ça, c'est un processus nouveau quand même.
Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la Birmanie. Nous retrouvons nos invités Sophie Boisseau-Durocher, Isabelle Dubuis et Maxime Boutry dans quelques instants. À tout de suite.